Vous écoutez
RMC. RMC.
L'Afterfoot.
Nicolas Villas.
21h30, vous êtes sur RMC dans l'After en compagnie de Jonathan Macardy et Dwalid Acherchour, avec Clément Brossard également du côté d'Helsinki. Se joue ce soir la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort. Et Clément, ils sont chauds l'Eintracht ce soir.
Ah, exactement, comme le disait notre auditeur tout à l'heure, on voit une belle équipe allemande face au Real Madrid qui joue crânement sa chance, qui domine même, en tout cas qui s'est créé plus d'opportunités. Alors le Real, comme à son habitude, eh bien, fait tourner le ballon et peut piquer à n'importe quel moment, mais ils ont été plus efficaces en tout cas dans les transitions, les Allemands. On a vu tout à l'heure la première tentative de Jasper Lindstrom, celle de Ansgar Knauf également sur le côté droit qui est venu alerter une nouvelle fois Thibaut Courtois. Et puis là, ils vont obtenir un corner, les Allemands qui continuent de
pousser. Ouais, ils font une belle demi-heure. Hein.
Exactement, et puis ils ont le public avec eux aussi, il faut le rappeler, parce qu'il y a 40 000 personnes présentes dans ce stade d'Helsinki, le stade olympique.
C'est des tarés,
et surtout
les supporters
beaucoup,
de l'Eintracht,
beaucoup, beaucoup d'Allemands.
Ah, ouais, ouais.
Et il y avait 8 000 billets vendus déjà pour les Allemands, 1 800 pour les Madrilènes. Donc vous imaginez qu'en plus des personnes qui viennent à Helsinki pour suivre cette rencontre, eh ben, il y a pas mal d'Allemands en plus. Et on l'a vu d'ailleurs au moment des hymnes juste avant le match, où celle de Francfort résonnait beaucoup plus que celle de la Maison Blanche. Corner à venir. Alors je ne sais pas si on peut le suivre, parce
vas-y,
que c'est le premier coup de pied arrêté pour les Allemands, et ça peut être dangereux dans ce sens-là.
Parce que Walid et Jonathan,
il y a quand même des bons joueurs de tête côté Francfort, avec notamment Touta, le Brésilien, qui a sauvé tout à l'heure un ballon sur la ligne quand Vinicius a tenté sa chance. C'est parti pour les Allemands, ça va être frappé au point de pénalty. Touta était à la réception, finalement c'est une sortie de balle d'Eder Militao. Toujours 0-0 entre le Real et Francfort après 30 minutes de jeu.
Tiens, avec Clément, puisque tu es là, toi qui a été notre correspondant du côté de la Côte d'Azur, notamment du côté de Monaco pendant un temps, t'en penses quoi de la vie tranchée de Walid qui dit on est trop gentil avec Monaco?
Bah, je pense surtout que il va falloir encore de la patience, mais que la patience arrive à son terme, et qu'à Monaco il y a une exigence de résultat, que Niko Kovac a été licencié, comme l'a très bien dit Walid, parce qu'il y avait ce manque de qualification en Ligue des Champions, et que Philippe Clément était censé incarner l'homme qui pouvait, sur une double confrontation, eh bien emmener Monaco en Ligue des Champions. On a vu que ça a failli encore une fois. Alors même si dans le coaching, en tout cas, une fois que le coach belge a fait ses changements, on a senti une équipe de Monaco beaucoup plus offensive et beaucoup plus dangereuse. Mais il va falloir encore qu'ils passent un cap. Et le vrai problème, et t'en as parlé tout à l'heure, Nico, c'est qu'ils attendent de savoir s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions ou non pour faire le recrutement.
Bah oui.
Et qu'Aurélien Tchouaméni, son absence, elle pèse énormément et qu'elle aurait dû être comblée avant. Donc Paul Mitchell a sa part de responsabilité sur cette défaite.
Ouais. Et dis-moi, il y a des petits bruits comme quoi ça pourrait déjà être chaud. Enfin, déjà, je sais pas s'il faut dire. Si, déjà, oui. Pour Philippe Clément, l'entraîneur de Monaco.
Ouais, alors on a quelques personnes qui nous appellent parfois, qui évoquent, qui sont plus ou moins proches du club, qui nous disent que la non-qualification de Monaco aurait pu entraîner le départ de Philippe Clément. Pour avoir parlé de ça avec quelques sources également plus ou moins proches du club, pour l'instant il n'en est pas question.
Ça serait une bêtise de plus, hein.
Et surtout qu'on a un discours de Paul Mitchell qui, depuis la fin de la saison dernière, table sur la stabilité, comme quoi il a parlé avec Dimitri Ribolovlev que c'en est fini du temps où on changeait d'entraîneur tous les ans et demi. Et puis aussi, c'est lui qui a fait plus ou moins le choix d'amener Philippe Clément, Paul Mitchell.
Ouais, parce qu'en fait, tous les ans, ils font le coup. C'est-à-dire qu'ils terminent très bien la saison. Il y a le coup de bambou en barrage. Et c'est terminé. Allez. Et après, rebelote, on refait la même chose. À un moment donné, il va falloir.
C'est ce que dit Clément hier après l'élimination.
Il va falloir stabiliser un coach. Et faire une vraie saison en Ligue Europa, aller chercher cette deuxième place, cette vraie deuxième place pour aller en Ligue des Champions, et ne pas se retrouver dans la même situation, et surtout vraiment se recruter au poste clé.
Et être constant sur l'ensemble de la saison, puisque ça fait quand même deux saisons de suite que Monaco se réveille dans le sprint final.
L'année dernière, mais je me rappelle, ils commencent leur saison après le match contre le PSG, où ils tombent sur un PSG gros guide, leur élimination contre le Real Madrid, ils mettent un 3-0, je crois que c'est un dimanche 13h, et derrière ils enchaînent. Mais avant ça, pour moi, c'était inespéré de voir Monaco sur le podium.
Allez, 10 minutes à jouer, en tout cas dans cette première période de la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort. Toujours 0-0, hein, entre le Real et l'Eintracht. Match plutôt sympa du côté
du Real. Le Real au petit trou, hein, Clément.
Oui, mais il faut tourner le ballon. Alors on voit pas mal de mouvements, notamment de la part de Vinicius. Karim Benzema est très peu trouvé depuis le début de la partie, mais ils sont, j'ai l'impression, bon, dans les duels, surtout les Madrilènes, parce que Francfort a l'air d'en vouloir beaucoup plus. Alors ils ont déjà entamé leur saison aussi, peut-être que ça compte, puisqu'ils ont certes pris une sacrée rouste contre le Bayern Munich 6-1 lors de la première journée, mais le début du championnat pour le Real, ce sera que dimanche prochain à Almeria. Donc ils ont déjà la compétition dans les jambes, les joueurs de Francfort. C'est peut-être ça qui fait la différence après 34 minutes de jeu, mais toujours pas de but inscrit pour l'instant à Helsinki.
Tiens, bah, on va aller retourner du côté de Monaco, puisqu'on y était, mais pour de la clé cette fois-ci. Il y a le meeting de Monaco ce soir qu'on vit avec Samir Hammoudi. Il y a le 200 mètres qui va débuter dans quelques instants, hein, Samir.
Ouais, le 200 mètres masculin qui va venir avec la présentation des athlètes et la plus belle course de ce meeting de Monaco qui a été encore une fois grandiose. Et Noah Lyles qui est devant les écrans, devant le public, c'est le champion du monde du 200 mètres. Ce garçon est en train de révolutionner la discipline. Si vous avez suivi les championnats du monde à Eugene il y a deux semaines, il a réalisé le 200 mètres en 19-31. Il a battu le record mythique de Michael Johnson et s'approche de celui d'Usain Bolt. Mais attention, parce qu'à l'intérieur, juste derrière lui, il y a une nouvelle pépite, un nouveau phénomène, Arion Knighton, 18 ans seulement, qui a fini 3e des championnats du monde de Eugene et qui a un record personnel en 19-49. Il a battu tous les records de précocité d'Usain Bolt. C'est vous dire le talent de ce garçon. Et puis au couloir numéro 5, juste derrière lui, Michael Norman, c'est le champion du monde du 400 mètres. Il est venu aujourd'hui tester un petit peu sa vitesse en coupant sur le 200 mètres, mais lui aussi est bourré de talent avec un record personnel à 19,70. C'est un garçon qui a déjà battu en plus Noah Lyles en confrontation directe. Michael Norman et Noah Lyles sont à 1 partout, donc ça pourrait être le juge de paix, ce 200 mètres masculin du côté de Monaco. Et puis attention, puisqu'il y a aussi un Français au couloir numéro 1 qui a été invité, Michael Zézé, qui à la Chaux-de-Fonds au début du mois de juillet a réussi l'époustouflante performance de réaliser moins de 10 secondes et moins de 20 secondes sur 100 mètres et 200 mètres, tout ça dans la même journée. Donc confirmation peut-être pour Michael Zézé, mais on va surtout suivre les couloirs extérieurs dont je vous ai parlé. Au 5, Michael Norman. Au 6, Arion Knighton. Au 7, Noah Lyles, l'américain champion du monde en titre.
Allez, le 200 mètres qui va débuter, 200 mètres hommes au meeting de Monaco avec Samir Hammoudi.
Allez, les garçons se mettent dans les starting blocks. Beaucoup d'intensité, beaucoup de public venu en nombre aussi au Louis II. Vous qui parliez de football, ça change un petit peu l'atmosphère, toujours.
C'est marrant, je l'attendais celle-là, Samir.
Je suis désolé, Nico, hein, je suis obligé de la placer. Allez, les garçons sont dans les blocs, ça va pouvoir démarrer, je vous le rappelle. Noah Lyles à l'extérieur au 7, Arion Knighton au 6, Michael Norman au 5, un œil sur Michael Zézé au couloir numéro 1.
Allez, ça va partir dans le 200 mètres homme avec Samir Hammoudi sur RMC.
Allez, c'est parti avec un très bon départ à l'extérieur du Canadien Aaron Brown. Mais Noah Lyles est en train de fournir son effort dans le virage. En sortie de virage, il est en tête. Attention à Arion Knighton et Michael Norman qui essayent de lui résister. Noah Lyles est en tête et Arion Knighton qui veut résister. Mais il est tout seul, seul en piste. Piste aux étoiles pour Noah Lyles. Noah Lyles qui va s'imposer. 19,45, record du meeting. Il continue sa voie lactée. Il est parti dans les étoiles, ce garçon. Après ses 19,31 de Eugene. 19,45, c'est corrigé, 19,46, mais encore une performance exceptionnelle pour Noah Lyles qui continue encore d'affoler les chronos. Et je vous le dis, je l'ai annoncé depuis plusieurs années maintenant et depuis 2017, le record du monde d'Usain Bolt est en danger avec Noah Lyles.
Merci beaucoup Samir. Et pendant ce temps-là, ça bouge en Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort, Clément Brossard.
Avec le premier but du Real Madrid, à l'instant, on disait pourtant que Francfort avait plutôt mieux démarré cette rencontre. Et bien c'est Vinicius qui, sur le côté gauche, tente une frappe enroulée. C'est détourné en corner par Kevin Trapp. C'est sur le corner qui suit justement, où après une combinaison de tête et notamment celle de Benzema qui sert Casemiro juste devant la ligne de but. Et derrière, et bien c'est le défenseur central David Alaba qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets de Kevin Trapp. Ça fait un but à 0 pour le Real à 7 minutes de la pause.
Benzema encore au départ. Ils se sont fait une petite brésilienne de tête.
Non mais c'est un but, ça passe,
ouais,
à Benzema.
Ouais, il gagne son duel, tête pour Casemiro. Casemiro qui sent bien le coup.
Ouais.
Et Alaba qui est toujours opportuniste dans la surface de réparation. Mais c'est plutôt mérité sur les 2-3 dernières minutes parce qu'ils ont eu des situations quand même assez dangereuses. Et le Real, voilà, c'est le Real Madrid. Ça sort une fois, deux fois et ça fait but, ça fait mouche.
Heureusement qu'il y a Vinicius quand même dans cette rencontre. Ouais. Attention à la réaction quand même de Francfort et réclamer une main l'attaquant colombien Raphaël Boré. Mais rien pour l'arbitre anglais Monsieur Oliver. Ouais, je disais Vinicius qui est peut-être le seul danger du Real dans ce début de partie.
Comme d'habitude,
parce que on voit pas trop Valverde notamment faire des courses et apporter le danger dans la surface de réparation de Francfort. Benzema est toujours très très peu servi, donc il y a un élément moteur pour l'instant pour le Real, c'est Vinicius. C'était d'ailleurs de lui, du Brésilien, qui est venu le but, qui a entraîné le corner, surtout qui a amené le but derrière.
Ils aiment bien endormir les rencontres comme ça et jouer avec Benzema, Vinicius pour faire la différence.
Allez, à 6 minutes de la pause, le Real mène en Super Coupe d'Europe 1-0 face à l'Eintracht Francfort. Nous, on va revenir à notre débat, celui justement qui concerne les clubs français en tour préliminaire de Ligue des Champions. Monaco éliminé hier donc par le PSV Eindhoven. Le foot français qui se fait sortir une nouvelle fois des tours préliminaires de C1. Alors, fact-checking, sur les 7 dernières campagnes françaises en tour préliminaire de Ligue des Champions, une seule s'est soldée par une qualification, c'était Monaco en 2016-2017. Sinon, on a eu les éliminations de Monaco, pas cette saison, en 2016 et en 2022, Nice en 2018, Lille en 2015 et Lyon en 2014. Donc une qualif sur les 7 dernières.
C'est date, c'est ça.
Lyon, ouais.
2014.
Ouais. Ouais, on a eu Lille face à Porto.
Exactement.
On a eu Monaco face à Valence. On a eu Monaco face à Villarreal qui s'était qualifié. Ouais, c'est la seule qualif. On a eu Nice face à Naples et on a eu Monaco face au Shakhtar la saison dernière.
Mais écoute, moi j'ai envie d'étendre ta question.
Alors je vous pose la question. Comment vous l'expliquez? On vous attend 32-16 pour y répondre.
Mais moi je vais étendre cette question-là avant de qu'on débatte sur le pourquoi du comment. Mais c'est quel club français sur les 10 dernières années ne s'est pas pris une honte monumentale en Coupe d'Europe? Il n'y en a aucun. Tous les clubs français qui ont participé à la Coupe d'Europe ont fait honte au moins une fois au championnat de France, à la Ligue 1 et à la France. Le Paris Saint-Germain, pas la peine de les énumérer, hein, c'est des habitués, ceux qui portent l'étendard de la honte française en Coupe d'Europe. Marseille, il y a eu les 0 points et puis la phase minable avec André Villas-Boas.
L'Olympique Après, Lyonnais, PSG porte la honte, mais un peu plus haut quand même.
Oui, un peu plus haut, mais c'est quand même des hontes qui ont eu un autre retentissement.
Parce qu'entre le barrage et
Walid, c'est quand même le cirque Pinder, le PSG.
Oui, d'accord.
L'Olympique Lyonnais, certes, il y a eu cette belle performance en Coupe Covid, mais il y a quand même eu de nombreuses fois où ils sont pris les pieds dans le tapis. Et même si c'est en demi-finale, ne pas se qualifier pour leur finale de Ligue Europa au Parc OL, c'était quand même une grosse désillusion. Monaco, on a énuméré le fait de pas passer les phases de poule, les phases préliminaires contre des clubs qui ont deux fois moins de budget que ça reste quand même inexplicable. Moi, je suis désolé, le football français en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe depuis de nombreuses années. Et c'est pas les pauvres petites épopées du Paris Saint-Germain, dont cette finale en Coupe Covid, qui vont mettre le voile sur le reste. Bah, les clubs français sont minables en Coupe d'Europe.
Alors, je suis d'accord.
À part Monaco,
faut pas tout jeter non plus.
Monaco qui a été prodigieux contre moi.
T'as raison, mais d'un autre côté, si la France aujourd'hui a ce classement ranking UEFA, c'est qu'ils les engrangent les points. On rappelle, c'est calculé sur les 5 dernières saisons. Donc c'est que les points sont là. Même si, on le rappelle, alors c'est très important ce qui est en train de se passer cette saison avec la réforme de la Ligue des Champions en 2024, parce que c'est calculé sur les 5 dernières saisons. Et en 2024, la 5e saison la plus ancienne, elle va sauter. C'est celle où il y a beaucoup de points pour les clubs français, notamment avec les Néerlandais qui sont derrière. Mais comment vous expliquez le fait que je parle pas de l'Europa League, parce que souvent on a dit ça manque de motivation en C3. Alors en Europa Conférence, on en parle même pas de la part des clubs français. Mais là, en tour préliminaire de Ligue des Champions, comment vous expliquez que les clubs français aient une qualif sur les 7 dernières campagnes?
C'est très simple. C'est que on ne doit pas être surpris parce que la majorité de l'opinion footballistique en France surcote trop fortement les clubs domestiques. Et je suis désolé, les clubs qui sont aux Pays-Bas, qui sont au Portugal, qui se qualifient pour ces phases finales, pour ces phases de poule de Ligue des Champions, qui ont parfois deux fois moins de budget que nos supposés gros clubs français, sont bien meilleurs parce qu'ils travaillent mieux, parce qu'ils valorisent mieux l'argent qui est à disposition, parce qu'ils font des meilleurs choix dans le recrutement, et parce que au final, quand ça donne la vérité du terrain, quand tu as un club comme Eindhoven qui a je ne sais pas quel budget, mais c'est certainement beaucoup moins que Monaco, et avec les avantages fiscaux en moins de Monaco, et ça donne une équipe qui est beaucoup plus sûre de ses forces.
Non, le problème, c'est que
faut qu'on arrête de se voiler la face sur le niveau de ces clubs. Le niveau de Lyon, le niveau de Monaco. Et surtout qu'on arrête de sous-estimer les clubs comme le PSV, comme le Feyenoord, comme les clubs au Portugal.
Non, mais en fait, le problème avec ce débat-là, c'est que pour moi, on ne peut pas tout englober. En fait, t'es obligé de faire du cas par cas parce que en fait, avec la vision tout en noir,
Nice c'est pas Lyon. Non, mais
avec la vision tout en noir de Jonathan, en fait moi elle me dérange et pourtant je partage quand même globalement la déception et la frustration qu'il peut avoir parce que moi je sens beaucoup de frustration dans ce qu'il dit. C'est que bien entendu qu'on a de la qualité, bien entendu que sur beaucoup de moments clés, on passe à côté. Maintenant, moi, je suis désolé, mais Lyon a fait demi-finale de Ligue des Champions il y a 3 ans, même si pour lui c'est la Coupe Covid.
C'est pas la Ligue des Champions.
Mais tu sors quand même Manchester City et la Juventus. Pas sûr que le PSV là, sur les 2-3 dernières années, on fait la même chose. Tu prends Monaco, ils avaient sorti City et Dortmund à l'époque, ils avaient fait demi-finale de Ligue des Champions. Tu prends le PSG, hormis alors apparemment il y a la Coupe Covid, mais l'année d'après, ils sortent quand même le Barça et le Bayern en Ligue des Champions. Alors je sais pas c'est quoi l'explication là de Jonathan, mais ils les ont quand même sortis et avec la manière tenir, je pense, notamment contre le Barça. Voilà. Maintenant, c'est vrai que il y a des matchs témoins, des matchs clés où on est et déçu parce
que le PSG avec le budget de temps d'autre fasse quelque chose en Ligue des Champions.
C'est pour ça qu'en fait, il faut prendre les clubs.
Quand t'es devenu par un État souverain avec les fonds limités,
c'est pour ça que tout n'est pas jeté, tout n'est pas mis. Tout n'est pas
un Wally, tu me cites une épopée de Monaco, une épopée de Lyon. Le problème, c'est que quand tu me cites un exemple, on tombe dans l'anecdote.
Mais l'épopée du Shakhtar, c'est quoi l'épopée du Shakhtar?
Mais on s'en fout du Shakhtar, non, là, des clubs, là. Des clubs de Ligue 1.
Je m'en fous du Shakhtar. Mais tu compares avec ces clubs-là.
Je ne compare pas le Shakhtar.
Mais le PSV Eindhoven là récemment, c'est quoi les épopées?
Ils viennent d'éliminer Monaco.
Ouais, d'accord. Mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut faire du cas par cas. Il faut, je pense, avoir une analyse beaucoup plus fournie et beaucoup plus. Parce que hier, moi, ce que je vais reprocher à Monaco, c'est pas les intentions. Contre le Shakhtar l'année dernière et cette année contre le PSV Eindhoven, j'ai préféré les matchs de Monaco que les matchs des Ukrainiens et des Hollandais. Le problème, c'est que je trouve qu'ils ne mettent pas, tout en œuvre pour se donner les moyens de se qualifier et qu'ils ne tirent pas les conséquences de leurs échecs passés. Mais globalement, c'est de la naïveté qu'on a vu avec Monaco. Ce n'est pas la qualité brute. Moi, je suis désolé, mais j'ai vu des joueurs, moi, au PSV Eindhoven, qui m'ont globalement déçu.
C'est anecdotique ce que tu dis. Oui, mais quand tu es Monaco, avec le budget que tu as, tu dois te qualifier face au PSV Eindhoven.
On n'a pas vu de match.
Jonathan, l'argent ne fait pas tout.
Ouais. Mais l'argent ne fait pas tout, c'est la manière dont tu l'utilises. Et le problème, c'est ça que moi je soulève, c'est la manière de travailler nos clubs français qui n'est pas à la hauteur. Et il y a un juge de paix, il y a un révélateur, c'est la Coupe d'Europe. Et en Coupe d'Europe, on voit bien que les lacunes et les errements dans la gestion des clubs, dans le travail qui est fait sur le moyen terme, et ben tu les payes cash
Tout n'est pas éliminé. Noir. Lyon a battu Porto l'année dernière. Porto, il me semble que c'est quand même une équipe, c'est l'équipe qui vient de gagner le championnat portugais.
C'est surtout une équipe qui a une vraie expérience européenne.
Qu'est-ce qu'on dit si Lyon a battu Porto l'année dernière.
Ils ont fait quoi?
Ils ont perdu contre West Ham. Tout n'est pas noir ou blanc. Moi, je pense que venir et dire.
Tu penses pas que Lyon devrait ambitionner un petit peu mieux? Moi, je te parle pas de qui ils ont battu, je te parle en termes de parcours. Tu penses pas que Lyon devrait ambitionner d'être un vainqueur dans ce genre de Coupe d'Europe?
On le dit tous les ans.
Mais pourquoi on n'y arrive jamais?
Quand ça gagne contre ces équipes-là, faut aussi le dire.
Mais on le dit, Walid, mais pourquoi on n'y arrive jamais? Le problème, c'est que je veux bien t'écouter et je suis d'accord avec toi. Mettons un peu d'eau dans notre vin. Mais le problème, c'est que si tu tires des conclusions, tu remontes sur les 5-6 dernières années, ce qui me semble être assez raisonnable.
Mais moi, là, je parle, attention,
c'est quand même assez chaud.
Surtout, là, je pose la question, encore une fois, je parle même pas de l'Europa League, etc. Moi, je parle des trous préliminaires de Ligue des Champions. Et là, alors, là où je rejoins un peu Walid, c'est que, moi, quand je vois Nice qui se fait sortir par le Napoli, c'est pas vraiment. Lille qui se fait sortir par la Real Sociedad, on peut parler. Lyon qui se fait sortir par Porto. Il y a une certaine logique finalement à ce moment-là. Oui. Et surtout, les adversaires sont pas forcément toujours les mêmes non plus. Il y a des clubs qui ont plus d'expérience, qui ont peut-être moins de budget, mais plus d'expérience.
Là, moi, dans mon raisonnement, je n'ai pas pris en compte Lille et Nice qui étaient là. C'était pas anecdotique, mais c'était un coup. C'était un coup d'une saison. Et puis, effectivement, que le Nice se fasse sortir par Napoli, c'est normal. C'est comme quand Toulouse s'était fait sortir par Liverpool. Oui. Tu vois, c'est normal. C'est déjà bien d'y être. Mais des clubs comme Monaco, comme Lyon, comme Marseille, qui a fait 0 points et une campagne désastreuse avec Villas-Boas, ce n'est pas normal. Quand tu es ces 3 clubs-là, que tu as ce budget-là, tu dois au moins faire bonne figure en phase de poule, tu dois au moins passer les tours préliminaires et tu dois, je suis désolé, être un candidat à la victoire finale en Europa League. Malheureusement, ce n'est jamais le cas.
Les gars, on va poursuivre les débats dans quelques instants avec
la finale d'Europa League il y a 3 ans.
Avec Damien notamment qui nous a appelé au 32-16 et qui est lui aussi supporter de Monaco. Juste avant ça, c'est la mi-temps en Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort, Clément Brossard.
Exactement, mi-temps au stade olympique d'Helsinki. 1-0 pour le Real Madrid qui a, depuis ce but de Alaba à la 37e minute, et bien clairement mis le pied sur ce ballon. On ne voit plus trop les hommes de Francfort qui ont pris certainement un coup sur la tête. Ils avaient pourtant bien démarré cette partie, les joueurs du club de la S. Alors la S, la région, hein, c'est pas la S, la galère. Mais en tout cas, ça fait 1-0 à la pause pour le Real.
Excellent. Les vannes de la
Côte d'Azur.
Je prends. Excellent.
Je prends.
Il est bon, Clément. En plus d'être beau, il est
bon. Même eu la bonne prononciation.
Ouais. Si, il est beau, arrête. Ouais. Nicolas Drouet me dit au beau, bien sûr que si, il est beau.
Et c'est Nicolas Drouet qui dit ça en plus.
Ouais. Oh, sympa.
Belle ambiance en tout cas.
Pourquoi les clubs français galèrent pilotant en tour préliminaire de Ligue des Champions? Vous attendons 32-16 pour y répondre avec Jonathan Macardy et Walid Acharchour. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Avec Jonathan Macardy, avec Walid Acherchour, c'est la mi-temps, tiens, en Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht, et le Real mène 1-0 face aux Allemands, le Real qui avait remporté la Ligue des Champions, vous le savez, face au vainqueur de l'Europa League. On était en plein débat capillaire hein, pendant la pause, sachez-le, c'est super intéressant. Ouais. Voilà, Jonathan voulait savoir à quel moment Walid avait décidé de raser.
Oui, je lui dis janvier 2020.
Parce que la calvitie était trop forte.
Exactement, parce que ça commençait à devenir un petit peu, bon c'est pas radiophonique ce que je vais dire, mais un peu effilé façon oignon. devant.
Effilé façon oignon.
Et exactement, il y avait une scission vraiment entre deux parties de.
Ah, tu nous as dit ça ressemblait à Bouteflika.
À Bouteflika, oui.
Ah oui.
Oui, un peu. Ça faisait un peu Bouteflika.
Ah oui.
Et donc, malheureusement, à ce moment-là, j'ai dit, faut. On va raser le kiwi.
T'as un peu plus de vitalité, quand même.
Voilà, on va raser le kiwi.
Alors, les gars, on était en train de se faire le bilan des clubs français de kiwi, en tour préliminaire de Ligue des Champions après l'élimination de Monaco hier face au PSV Eindhoven. Je vous le rappelle, une qualif sur les 7 dernières campagnes françaises en tour préliminaire de Ligue des Champions. Et on a Damien, supporter de Monaco, qui nous a appelé au 32-16 depuis la merveilleuse ville de Saint-Germain-en-Laye. Salut, Damien.
Bouteflika peut à ce moment-là, qui nous a quittés.
Salut. Messieurs, bonsoir. Oui, bonsoir aussi.
Salut, Damien.
Salut, Damien.
Alors, comment t'expliques, toi, le fait que les clubs français galèrent autant ces dernières saisons en tour préliminaire de C1 ?
Je parlerai de façon plus générale en Coupe d'Europe, en fait. Je pense qu'on a tout simplement une culture des matchs européens au niveau football qu'on n'aborde pas de la bonne manière. On voit des effectifs des fois qui sont inférieurs. Alors je parle du match d'hier forcément. Sur les deux matchs, on voit pas Monaco particulièrement inférieur au PSV.
Exactement.
Effectivement, il y a des occasions pour hier gagner le match. On serait pas en train d'avoir ce débat là ce soir. Maintenant, on a pour les supporters la douce et mauvaise habitude de voir ça depuis deux saisons. Et si je regarde de façon beaucoup plus large, depuis moi qui ai une quarantaine d'années, ça a toujours été la même chose en fait. On s'aperçoit que très peu de clubs français, et c'était à chaque fois des coups, il n'y a jamais un club français qui, sur la scène européenne, a réussi à dominer, excepté PSG sous l'ère Canal+, et là l'ère Qatari, Marseille, les années tapis. Et quand on regarde des clubs comme Rennes, je me souviens d'Antonetti qui disait chaque saison le pain quotidien c'est le championnat.
Ouais.
Ça se bataille 38 journées pour faire l'Europa League. Pour le, enfin,
Lille aussi avait tenu ce discours il y a quelques années en C3.
Et finalement tu fais deux tours et tu te fais sortir par des équipes qui sont pas forcément toujours plus fortes que toi. Donc là ça montre quoi ? C'est pas des problèmes d'effectifs, de qualité de joueurs j'entends. Dans le sens où les joueurs français c'est ceux que tu retrouves dans quasiment le plus de championnats. Enfin.
Ouais, mais Damien, je te coupe juste deux secondes.
Ouais.
Là, on parle d'un tour préliminaire de Ligue des Champions.
Ouais.
Ce que tu dis là, concernant Rennes, et moi je le disais pour Lille, c'était pour l'Europa League. En mode, ça rapporte pas assez d'oseille. On veut pas jouer le dimanche soir.
Si tu veux. C'est pareil. Quand tu n'y mets pas les ingrédients qu'il faut mettre sur un match européen, c'est-à-dire une intensité, une envie de se dépasser à 120%, l'idée d'être clinique, avoir une marge d'erreur la plus minime possible. Hier, tu vois les trois buts, tu prends trois buts, sans déconner, tu les vois venir avant qu'ils arrivent. En Ligue 1, peut-être que ça passe.
Surtout, ce qui est problématique, et c'est vrai que t'as raison d'insister là-dessus. Je trouve que quand même par rapport aux dernières années, dans les intentions, dans le contenu, dans l'approche football, je parle pas mental, etc. Parce que pour moi, c'est vrai que mentalement, dès que il y a un petit temps faible, ça commence à être très très compliqué. Mais dans l'approche football, je trouve que quand on regarde les dernières échéances, je trouve qu'on est souvent dans le bon côté club français. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à matérialiser nos temps forts. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à compenser nos temps faibles. Ouais. Parce que je vous prends un exemple, PSV Eindhoven de Monaco, l'année dernière, sous Kovac.
Ouais.
Il gagne à l'extérieur. Si on regarde le match contre le PSV l'année dernière, c'était un match totalement différent de cette année, où on a une équipe de Monaco attentiste, hein, qui défend très très bas et qui essaye d'exploiter en contre le PSV. Mais tu regardes le match l'année dernière, PSV mérite 100 fois plus de gagner la rencontre l'année dernière que cette année.
Mais,
et pourtant, c'est à peu près les mêmes équipes.
Non, on s'en moque parce qu'il compte là. C'était sur le aller-retour, c'était la qualif.
Mais c'est juste pour vous dire.
La qualif, une fois de plus, elle y est pas.
Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'en termes de contenu,
finalement, c'est mieux maintenant.
Après, en fait, le problème, c'est quoi?
C'est que non, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est de se qualifier.
Non, mais si tu veux, en fait, on peut juste dire flash résultat, Monaco a perdu, donc c'est mal. Ou on peut expliquer, encore une fois, s'il y a eu
une simple défaite, Walid. C'est pas une victoire, une simple victoire, une simple défaite. C'est une élimination qui conditionne le reste de ta saison. C'était un des moments clés de ta saison. Tu devais répondre présent. Et encore une fois,
mais on essaie de trouver des explications. On essaye de, voilà, on essaye de d'avoir une analyse globale. Et je dis juste que quand tu vois, et c'est pour ça que pour moi le facteur mental est hyper important, et c'est pas forcément uniquement juste sur le football, parce que l'année dernière cette équipe-là qui a pas grandement changé, tu n'as pas perdu à l'aller et au retour en Europa League,
dans la discipline, dans la rigueur que tu imposes tous les jours au quotidien à tes joueurs, qui les formatent mentalement justement répondre présent.
J'ai fait un avis tranché il y a 10 minutes dessus, donc je vais pas être en désaccord avec toi. Mais voilà, là-dessus. Mais si on va un peu plus loin,
mais on retombe sur une chose, on retombe sur la manière dont travaillent les clubs. On pourrait faire le parallèle avec ce qui s'est passé, la pseudo révolte des joueurs à Marseille suite à cause des méthodes d'Igor Tudor. C'est simplement que dans les clubs, il y a un manque de sérieux dans le travail sur le long terme, mais aussi en termes de discipline.
Et le niveau foot, je suis persuadé qu'encore une fois, on n'est pas en dessous.
Je te rejoins, mais moi je te parle de niveau de discipline et d'exigence que la Coupe d'Europe demande.
On remercie Damien de nous avoir appelé au 32-16. Je vous remercie également Jonathan et Walid.
Merci dynamique.
Voilà, merci.
C'était animé par Nico Villas.
On remercie Nico Le Drig pour la production. Ouais, je sais. Ouais. Suzanne Folli également à la réalisation. Et puis l'after se poursuit, bien sûr. Il y a Stéphane Guy,
une grosse équipe,
Kevin Diaz et Gilbert Rébois.
Ah ouais, d'accord. C'est un gros trio. C'est la BBC qui reprend la MSN.
Il arrive. Il faudrait lui demander, lui, à quel moment il a décidé de raser aussi.
Ouais,
enfin, est-ce qu'il a eu le mode. Comment tu disais? Est-ce qu'il a eu la période oignon et filoché?
Oignon et filoché?
Je sais pas. Raser la tête de Kiwi.
Allez, à tout de suite.